Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore les nouvelles façons de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast, on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Hussein Abbas. Salut Hussein, est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Bonjour tout le monde, donc moi c'est Hussein Abbas, je suis franco-libanais. J'ai un master 2 en informatique, en développement web et mobile. J'ai commencé mon parcours professionnel dans une start-up, dans une filiale à Honnay qui s'appelait à l'époque Honnaytech. On était en mode startup, donc avec l'avancement du projet, j'ai dû prendre un peu plus de responsabilités tout au début de mon parcours. Du coup, j'ai vite basculé de développeur vers plus la gestion du projet et du product owner. Et c'est dans ce parcours-là que j'ai continué après mon départ chez Honeytrust où je suis resté 5 ans et après je suis passé en freelance où j'ai été chez plusieurs clients dont OVH et Decathlon et aujourd'hui je continue en freelance chez Decathlon.
Et du coup, tu as commencé ta carrière comme développeur, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. T'as commencé comme dev et maintenant tu t'es réorienté sur la gestion de projet. Je sais pas quel est le titre exact d'ailleurs de ton taf actuel.
Alors aujourd'hui en fait chez Decathlon je suis production leader. En fait c'est l'ensemble des sites e-commerce qui rentrent dans la solution qu'on a chez nous. Donc aujourd'hui dans mon scoop j'ai 30 pays e-commerce un peu partout dans le monde. Et en plus de ça je gère la partie amélioration des sites et plus suivi de production pour être sûr que tous les sites fonctionnent 24 heures sur 24 heures et que on n'a pas de problème qu'on rencontre en prod. En fait, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire au début, en fait, oui, j'ai commencé en tant que développeur. En fait, ce changement de parcours, en plus de mes connaissances en développement, m'ont aidé à mieux comprendre le métier de gestion de projet pour être proche des développeurs et savoir comment réussir à bien faire avancer un projet tout en restant proche des développeurs, car il y a souvent un petit décalage entre les deux, entre la gestion et le développement. Donc c'est ça qui est super intéressant. Donc aujourd'hui je continue aussi quand même à mettre un peu ma main dans le code quand il faut. Okay. Et de l'autre côté je fais un suivi d'avancement des différents projets.
Et du coup tu dis que t'as une trentaine de sites différents, c'est ça? T'as une trentaine de pays différents?
Oui, c'est ça. En fait on a une trentaine de pays différents, en fait, si tu veux, pour la petite histoire, après le confinement, donc Decathlon, ils ont décidé de mettre que tous les sites e-commerce sur deux solutions internes. En fait, avant, ils avaient plusieurs solutions, que ce soit sur Magento ou bien sur d'autres technos. Donc, après le confinement, ils ont décidé de tout réunir dans deux solutions, dont l'une concerne les pays qu'ils ont des forts nombres de commandes par jour, en fait, comme les gros pays. Okay. Et une autre solution qui est basée sur PrestaShop qui concerne les pays avec une centaine jusqu'à milliers de commandes par jour.
Ok. Et du coup, donc c'est un boulot, ça fait combien de temps que tu bosses chez eux? Ça fait un an et demi que t'es chez eux?
Ça fait un an et demi que je suis chez eux, ouais, depuis août 2020.
Ok, et t'es en full remote depuis le début. Est-ce que tu cherchais spécifiquement un boulot en full remote ou est-ce que ça t'est tombé dessus presque par hasard?
En fait, ça m'est plus tombé dessus par hasard, car après le confinement, donc avec le marché du freelance, donc ça s'est calmé un peu pendant quelques mois. Donc pendant ce temps-là, j'avais une mission à mi-temps chez un client. Et quand ça a commencé un peu à À s'ouvrir à nouveau, en fait, c'est vraiment du hasard, car si tu veux, j'ai pris en fait le poste de mon frère qui travaillait chez Decathlon en fait et qui est parti. Donc ça, je le savais pas du tout.
Ah, okay.
Mais quand j'ai rencontré la personne, il m'avait dit que j'ai une personne qui vient de partir et on est en train de chercher quelqu'un pour le remplacer. Donc cette personne, c'était mon frère.
Okay.
Et du coup, en fait, si tu veux, le responsable d'équipe, il est basé au Canada. Donc au début, c'était plutôt du, on était plutôt rattaché à Decathlon Canada, et en fait, c'est là qu'il a commencé à construire son équipe en full remote, car si tu veux, vu qu'on est un peu, on gère plusieurs pays dans un peu partout dans le monde, en fait, chaque pays a besoin d'avoir une autre équipe comme référent technique qui va l'avoir dans son périmètre à lui. Et du coup, on est obligé d'être un peu partout dans le monde pour respecter les différents décalages horaires. Et du coup, c'est à partir de là que cette mission, en fait, elle a commencé en mode full remote. Du coup.
Ok. Et du coup, tu bosses aussi bien avec des sites qui sont en Amérique du Nord ou en Asie ou en Europe. Tu bosses avec tous les... Ok, donc tu dois quand même pas mal jongler avec les décalages horaires, j'imagine.
C'est un peu ça, en fait, si tu veux. Ouais, il y a 4 pays en Asie, donc il y a quand même un sacré décalage horaire avec eux. Quand c'est le matin chez nous, c'est l'après-midi ou le soir chez eux. Et après, il y a des pays qui sont, oui, au Mexique, Colombie, Chili. Après, il y a des pays, ouais, un peu, c'est vraiment le plus gros décalage horaire, c'est Asie, Amérique du Sud. Après, les autres pays, Europe, Afrique, il y a souvent 1 heure ou 2 heures de décalage avec eux. Donc là, ça va, mais ouais, c'est un peu, c'est pas plus compliqué, mais un peu plus d'organisation avec les autres pays qui sont en Indonésie et qui sont en Mexique pour la gestion des sites, oui.
C'est intéressant parce que donc tu bosses pour Decathlon, qui est quand même une grosse boîte. Les grosses boîtes françaises dans ce genre-là, elles ont quand même en général pas trop une culture du remote. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'était comme ça et que ça, enfin, je veux dire, est-ce que c'était une contrainte et qu'ils se sont mis au full remote par défaut, ou est-ce que c'est parce que ton boss qui était au Canada, qui peut-être du coup avait une culture différente, a poussé le full remote? Comment ça s'est passé, cette histoire?
Je pense que avant le confinement, l'équipe en France, ils n'étaient pas en full remote. Et après, au moment du confinement, donc le projet, il a quand même continué à tourner, et ils se sont rendu compte que finalement, en full remote, les gens, ils travaillent limite encore mieux que quand ils sont sur leur lieu de travail, même niveau productivité. Donc, je pense que c'est ça qui a motivé le responsable d'équipe à pousser là-dessus, même si, après, je sais pas si politiquement c'est encore accepté à 100% chez Decathlon ou pas, mais pour l'instant, on est comme ça, et je pense qu'on restera comme ça, car ça rentre un peu dans le cadre du projet, car réunir tout le monde, il faut emmener 50 personnes en France pour les réunir dans un bureau, quoi.
Et du coup, vous êtes combien en France, tu sais?
En France, alors, on est à peu près 8 en France. Il y en a 4 au Canada, et après c'est un peu pareil dans les autres pays, si on compte les référents techniques, on est à peu près, ouais, dans chaque pays il y en a 4 référents techniques en fait qui peuvent s'occuper de plusieurs pays. Donc au total dans l'équipe on est 20-25 personnes un peu partout.
Et
il y en a qui sont en full remote.
Ouais.
Il y en a qui sont en full remote, il y en a qui sont pas vraiment en full remote en fait dans l'équipe.
Ok. Ils sont au siège à Lille là, ceux qui sont en France.
Il y en a qui sont ceux qui sont en France. Non, ils sont pas à Lille. C'est plus si je prends l'équipe par exemple en Tunisie ou au Mexique, en Indonésie, ils sont plus sur site, ouais, qu'en full remote.
Du coup, c'est intéressant parce que tu as un boulot qui est mondial, on va dire, qui est du coup hyper distribué sur les time zones et tout ça. Comment est-ce que du coup ça se ressent sur ton mode de travail? Ou est-ce que au final t'as des, est-ce que vous avez un fonctionnement asynchrone et est-ce que t'as une liberté de tes horaires de travail ou est-ce qu'au final t'es quand même toujours un peu coincé à faire du 9h-18h? Comment est-ce que tu t'organises?
Non, on est, on peut plus être, en fait, on peut plus être coincé à faire 9h-18h, car parfois il faut, par exemple, faire des choses avant 9h ou parfois après 18h, vu que on est en décalage horaire. Donc, cette notion-là, elle est plus, en jeu de notre côté. Et en plus, ça vaut le coup de le dire, c'est que je travaille avec quelqu'un qui fait confiance à son équipe, en fait, donc que ça soit en télétravail ou pas, tant que les gens ils font leur travail n'importe où ils sont, lui ça le dérange pas du tout. Et du coup, niveau orga, en fait, ce qui change un petit peu, c'est que vu qu'on est un peu partout, c'est que ça engendre quand même un peu plus de réunions pour débloquer des situations bloquantes, mais ça reste dans le cadre de réunions utiles qui se dépassent pas parfois juste 15 minutes, 20 minutes pour dire comment on débloque les choses, et après on retourne dans le travail. On a un peu en fait, si tu veux, tu fais sauter toute la partie aller boire un café qui va durer une heure, ou bien aller faire une réunion d'une heure où tu vas discuter de travail pendant 10 minutes et pendant 5 minutes tu vas discuter d'autre chose. Donc toute cette partie-là, en fait, elle n'existe plus, et du coup c'est pour ça que les gens ils sont beaucoup plus efficaces et ils arrivent beaucoup à faire avancer les choses que s'ils étaient sur place, en fait.
Comment est-ce que vous vous organisez sur le plan matériel presque? Du coup, tu dis réunions, j'imagine que c'est des réunions soit sur Zoom ou c'est des vidéoconférences.
Oui. C'est okay. Ça.
Et du coup, niveau réunion, et tout ça. Ce qui est, et comment est-ce que vous organisez le reste du boulot entre tous des gens qui parlent du coup des langues différentes dans des décalages horaires différents? Vous faites comment?
Niveau organisation, si tu veux, en fait, chaque pays de 30 pays, il a son propre pays de référent technique, qui va lui remonter ses besoins. En fait, on essaie de travailler. Il y a trois niveaux, si tu veux. Et le premier niveau, c'est le pays en lui-même. Niveau 2, c'est le référent technique du pays. Et niveau 3, c'est l'équipe globale qui propose des solutions concernant l'ensemble des pays. Donc, en fait, la communication, si tu veux, ça se passe niveau 1, entre niveau 1 et niveau 2. Et c'est les niveaux 2, en fait, qui prend la décision, par exemple, s'il y a quelque chose de global, de le remonter au niveau 3. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, nous, on a notre contact direct, c'est le level 2. C'est le niveau 2, en fait, si tu veux. On a quand même parfois des contacts avec le niveau 1, mais c'est assez rare, car on essaye de limiter pour mieux s'organiser, en fait, pour que ça soit pas vu qu'on n'est pas l'un proche de l'autre, savoir si le, par exemple, le niveau 2, il est déjà au courant du problème ou pas. On essaye de limiter le contact sur ces trois échelons.
Et du coup, entre 2 et 3, ça se passe comment? C'est du Slack, c'est de la messagerie instant ou du mail, ou
c'est du Discord, en fait. C'est du Discord.
C'est marrant, ça.
C'est du Discord, c'est du. En fait, on était sur Slack avant. Après, il y a une migration sur Discord. Ce qu'on évite, qu'on a pris la décision d'éviter, c'est Google Chat, car ça génère des discussions à droite à gauche où tout le monde est perdu. Du coup, on a organisé Discord dans le sorte que, en fait, par pays, si tu veux, il y a des rooms pour chaque pays. Et s'il y a des problèmes, donc ça vient être posté sur le channel du pays. Et comme ça, nous, on a plus de suivi par rapport à ça qu'un groupe avec tous les pays qui sont dedans, qui viennent parler, et que il y a un message sur Discord qui est lu.
Et pourquoi vous êtes passé de Slack à Discord?
Le passage de Slack à Discord, car en fait on n'avait pas un Slack commun avec Decathlon, et vu qu'il n'était pas payant, donc on était assez limité par
l'historique des messages,
du coup c'est ça, du coup ils ont préféré passer sur Discord pour ça.
Ok. Et vous avez, donc ça c'est pour messagerie instantanée, peut-être même que les réunions d'ailleurs vous les faites directement dedans ou pas? Vous les faites directement
les réunions, les calls sur Discord? Fait, c'est ça, les calls on les fait dans les rooms Discord aussi, entre nous. Après, si c'est plus global et que ça concerne plusieurs personnes qui sont pas sur Discord, Là, on revient aux réunions de poste sur Google Meet.
Ok. Et du coup, est-ce que vous avez à côté de ça un outil pour qui soit plus pérenne pour parce que Discord c'est du chat, mais est-ce que vous avez par exemple des trucs pour faire de la doc, des procédures, des machins sur un wiki ou un truc comme ça à côté?
Oui, tout à fait, oui. Oui, on a un wiki en fait pour toute la partie doc. Après, on essaie de travailler aussi en mode Scrum, mais en mode Scrum modifié, car vu qu'on n'est pas une grosse équipe, donc c'est un peu du run et du build en même temps, et faire du Scrum en run, c'est un peu compliqué. Donc donc on fait du run et du build en même temps. Donc on a la partie Jira pour faire le suivi de tickets, si tu veux, concernant les demandes de pays qui arrivent chez nous. Après, il y a toute la partie wiki qu'on partage à l'ensemble des pays, en fait. Pour qu'ils soient au courant s'ils sont en train de chercher quelque chose, au moins qu'ils commencent par là avant de contacter l'ensemble des équipes.
Ok, et du coup, tu parlais de Scrum. Donc, Scrum, c'est une méthode de gestion de projet pour les développeurs, ce qu'on
C'est
appelle
une
la méthode
méthode agile,
agile.
oui.
Enfin, ouais, c'est ça.
Tout à fait, ouais.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment ça se passe ta journée? Est-ce que tu as un stand-up? En Scrum, les stand-up, c'est une petite réunion rapide de quelques minutes pour dire où t'en es, ce que tu as fait et si tu bloques. C'est des trucs que tu fais, par
C'est
exemple,
ça.
et vous faites.
C'est ça en fait, si tu veux, mais on le fait pas le matin du coup, vu qu'on a un décalage horaire, donc on le fait plutôt vers 14h30 où on essaye plus tard où on fait tout le monde. Dans cette partie-là, on est plutôt 10 personnes, si tu veux, dans la partie, dans la partie, on va dire, dans le daily. Et en plus de ça, on a des réunions une semaine sur deux avec les ensembles des niveaux 2 pour parler s'il y a des problèmes bloquants ou s'il y a des choses à améliorer dans le process pour qu'on en discute là-dessus.
Et du coup, vous faites tout en anglais par défaut? C'est-à-dire que toute la doc est en anglais, les calls sont en anglais, tout est en anglais?
Tout est en anglais, ouais. L'anglais il est obligatoire.
Ouais, c'est intéressant.
Sinon c'est pas possible vu que l'ensemble des pays ça ils parlent anglais, donc si on n'a pas le moyen de communiquer, ça c'est vite en fait c'est vite bloquant, car ça, parfois il y a des sujets qui sont super importants qui concernent le paiement ou qui concernent autre chose qu'on peut pas se permettre de pas comprendre la problématique pour le résoudre, donc c'est vraiment important de savoir parler anglais.
Et du coup,
Et
comment est-ce que tu t'es
ça a
organisé?
vachement aidé à aider le niveau d'anglais aussi.
Ouais, ben je me doute, ouais. Ouais, du coup, ça te force un peu à
À
améliorer ton
pratiquer,
anglais,
ouais, c'est ça qui est bien. C'est ça.
ouais. Et du coup, comment est-ce que tu as organisé ta vie de télétravailleur? Parce que tu disais tout à l'heure que tu n'avais pas forcément des horaires fixes en fonction des problématiques du moment. Comment est-ce que tu gères ça? Parce que moi, comme tu le sais, j'ai passé un peu de temps à San Francisco.
Oui.
À l'époque, moi, je gérais des devs qui étaient en France. Et c'est vrai que. Et après, j'ai fait l'inverse. J'étais dev pour une boîte à San Francisco. Et en fait, t'as très vite fait de commencer tes journées normalement pour un Français et de les finir alors qu'il est et les finir tard parce qu'en fait, San Francisco se lève à 10, à 19, à 18h.
Oui.
Et donc en fait, ça ramène quand même pas mal de tension de bosser comme ça avec des gens partout parce que t'as l'impression qu'en fait personne ne dort jamais. Et toi, en fait, il faut un moment que tu dormes, que tu manges et que tu fasses ce genre de truc. Donc comment est-ce que t'arrives à organiser tout ça? Est-ce que tu t'es mis des horaires fixes? Enfin pas fixes, mais limites, on va dire. Comment tu fais ça?
En fait, oui, bah, j'ai vécu à peu près la même chose que toi au début quand je suis arrivé dans la mission. Il y avait quand même des heures de fou. Ouais. Je commençais à 8h, je finissais à minuit. Donc je me
Ah, c'est
suis
ça.
vite rendu compte que ça va plus être possible au bout d'un moment. Donc en fait, si tu veux, niveau organisation, aujourd'hui, on continue à commencer le matin vers 8h30 à 9h. On a au moins de 8h30 jusqu'à midi, on a des horaires en commun avec les pays en Asie. Donc là, on arrive quand même à pas mal communiquer. Et l'après-midi, en fait, l'autre partie de l'équipe qui est au Canada, on travaille ensemble. Donc, si tu veux, ma journée, on va dire, officiellement, elle finit vers 19h. Sauf que, en fait, vu ma responsabilité de l'équipe, dans l'équipe, il faut être toujours à l'écoute, en fait. Donc, il faut toujours être en stand-by au cas où il y a un problème. Donc, si tu veux, après 19h, je me détache de toute la partie réunion, suivi, ce genre de choses qui nécessitent une présence physique à 100% devant l'ordinateur. Je serai plus en mode alerte s'il y a un problème concernant un site qui nécessite un déclenchement d'astreinte ou quoi que ce soit pour aider par rapport à ça. En plus de ça, je suis en communication continue avec le responsable d'équipe qui est au Canada, donc même après les horaires, et je reste joignable au cas où il y a un problème qu'il faut faire. Et en fait, il sait que il m'appelle vraiment quand il y a un problème critique et qu'il faut le résoudre. Donc ça nous a permis à mettre aussi ce on va dire ce périmètre et ses limites, à se dire que il faut quand même se détacher un petit peu le soir, mais on est tous conscients que s'il y a un problème, il faut être disponible.
Ouais, c'est chaud parce qu'en fait c'est quand même vachement chaud parce qu'au final tu bosses avec des gens partout et donc ça dort vraiment jamais, quoi. Donc ça veut dire que effectivement si t'as pas un boss qui dit bon ok là Hussein il dort donc je vais pas le rappeler parce qu'il est 23h chez lui,
oui.
Ça peut très vite déraper dans un truc où tu t'arrêtes jamais, quoi.
Ça peut super vite déraper.
Et du coup ça me fait penser à la question un peu sur l'organisation, on va dire physique, de ton lieu de travail. Comment est-ce que tu t'es organisé? Est-ce que t'as un bureau à toi dans ton appartement? Est-ce que tu arrives à couper un peu ton travail de ta vie perso, tout ça? Comment t'as fait ça?
Niveau coupage perso pro, en fait, je pense qu'on en discutera après, mais ça peut être un vrai inconvénient par rapport au travail en full remote. Ouais. Car en fait, tu mélanges ta vie personnelle et ta vie professionnelle. C'est dans le même environnement. En fait, tu travailles dans le même endroit où tu vis. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais en fait, je pense que c'est de l'expérience que t'apprends de l'expérience avec le temps, en fait, de se dire qu'à un moment, il faut faire des coupures. Il faut faire la part des choses entre vie professionnelle et vie personnelle. Donc moi, si tu veux, ce que j'ai fait, j'ai mis en place une sorte d'organisation. Même mon bureau, il est isolé dans une chambre à part. Donc je sais que quand je suis là, c'est pour le travail. Ouais. Et quand je sors de là, c'est comme si j'ai quitté le bureau et que je suis retourné à la vie personnelle, en fait.
Donc t'as vraiment une pièce à part qui te sert de bureau, quoi.
C'est ça, en fait. C'est vraiment pour faire un peu la coupure. Après, niveau matériel, en fait, si tu veux, c'est à peu près le même matériel que tu as dans un bureau. Un écran, un PC et des écouteurs pour les réunions. Et pour moi, ça fait l'affaire.
Est-ce que vous aviez un budget pour le matos? Ou est-ce que tu t'es équipé tout seul?
En fait, il te fournit le matériel concernant le laptop. Après, pour toute l'autre partie, si tu veux d'autres choses à toi pour créer ton environnement qui est propre à toi, non, ça vient sur ton propre budget à toi.
Ok, et ça vient du fait que t'es en freelance ou pas? C'est pareil pour tout le monde?
Je pense que, alors je sais pas pour les internes comment ça se passe, mais nous comme on est en freelance, c'est plutôt lié à ça. Mais après je sais pas si par exemple des écrans externes sont fournis pour les internes, ça j'ai pas d'idée.
Ok. Et du coup c'est quoi ton setup? T'as un écran externe, un clavier externe, tout ça?
J'ai un écran externe en 27 pouces, donc j'ai pas fait le foufou avec un stand à côté, en fait, où je pose mon MacBook en deuxième écran, et j'ai le trackpad et le clavier Apple, en fait, pour l'utilisation. Et c'est tout ce que j'ai sur mon bureau. En fait, j'essaie de minimiser à fond l'espace du travail pour, et la tasse de café. Il faut pas oublier.
Ouais, c'est ça. Et la tasse de café. Ok.
Ouais.
Du coup, ça fait un an et demi que tu fais ça.
Oui.
Si tu devais changer de boulot, tu retrouverais un boulot en remote, enfin, tu rechercherais un boulot en remote ou tu resterais ou tu reprendrais un boulot classique dans un bureau?
Je pense pas que je reprendrais un boulot classique. Je chercherais plutôt en full remote, encore une fois, car c'est vrai que c'est un rythme de travail différent, mais niveau productivité, niveau concentration, ça n'a rien à voir, je trouve, avec le travail ouais. dans un bureau où tu peux être déconcentré par n'importe quelle discussion à côté de toi. C'est ça qui me fait plaisir, qui me fait du bien aujourd'hui, c'est que c'est vraiment, t'as ton rythme de travail, tu te concentres vraiment sur ce que t'es en train de faire, la tâche qui va. Je parle de mon point de vue personnel, la tâche qui peut prendre 2 heures dans un bureau entouré de plusieurs personnes, ça peut limite prendre une demi-heure chez toi. Donc, ouais. Je trouve que c'est beaucoup plus productif. Et c'est pour ça que je chercherai du travail en full remote. Et le deuxième point, c'est que j'aurais du mal à travailler dans une entreprise qui accepte pas du faire du remote. Donc ouais, ça, c'est vraiment dans mes critères de recherche. Ça sera dans le futur si je change de mission. C'est que si l'entreprise elle accepte pas la notion du télétravail, pour moi c'est pas possible, car ça veut dire je sais pas si ça entre dans le critère de manque de confiance auprès des employés ou pour autre chose, mais pour moi c'est plus du tout.
C'est un truc accepté. C'est un truc qu'on entend beaucoup hein, sur ce podcast. Alors, on n'entend pas que les gens qui veulent pas faire de remote c'est parce qu'elles ont pas confiance, mais on entend beaucoup les gens dire que une des conditions absolues pour faire des full remote, c'est que ton boss ou celui qui te paye,
oui.
Il a une parfaite confiance en toi, quoi. Ça marche que dans ce sens-là, et donc forcément, il y a, c'est aussi gratifiant d'avoir quelqu'un qui te dit, écoute, tu fais ton taf, et puis moi, de toute façon, je peux pas vérifier, et puis j'ai pas envie de vérifier, savoir ce que tu fais, où tu vas, où t'es à 9h-10,
c'est
en
ça,
fait,
oui.
tout le monde s'en fout, quoi.
Et
du coup, est-ce que ça te manque pas le contact social? Est-ce que vous avez, parce que finalement vous êtes probablement pas très très loin, si tu sais qu'il y a quelques collègues en France, est-ce que vous faites des trucs ensemble
oui.
de temps en temps? Est-ce que tu as vu les Canadiens par exemple, ou est-ce que vous avez voyagé un peu?
Les Canadiens, on les a vus. Vu qu'ils sont tous en fait, si tu veux, des expertis en Canada, donc ils viennent de temps en temps en France, donc c'est vraiment le moment où on se rencontre ici en France. Pour l'instant, c'est en cours en fait. L'idée, c'est vraiment de réunir l'équipe quelque part dans un pays ou même en Montréal pour faire une sorte d'une semaine tous ensemble.
Ouais.
Mais le contact, si tu veux, entre les personnes entre l'équipe, on va dire 99%, c'est du virtuel en fait. Il y a pas vraiment de contact physique réel avec les personnes dans l'équipe et ça se passe super bien. Après, pour revenir sur ta première question en fait concernant la relation sociale, pour moi ça change pas grand chose à part que tu choisis les gens que tu veux voir en fait et que si t'es au bureau ou t'es pas au bureau, si t'es social ou t'es pas sociable, ça va rien changer en fait pour moi.
Ouais, mais tu peux pas là tu peux pas aller boire des bières avec ton collègue qui est au Mexique, tu peux pas aller boire une bière avec lui quoi le soir, tu peux pas faire des after work,
non
faire d'autres trucs.
Ouais, c'est sûr. Cette partie-là, ouais, même si elle n'existe pas, mais en fait, ça se remplace par d'autres types de rencontres, même si c'est pas physique, mais t'apprends quand même à reconnaître les personnes avec qui tu travailles, à partager des choses avec eux et à discuter des choses autres que le travail. Donc c'est juste que un peu embêtant pour le rencontre physique, mais si ça pose pas problème à la personne, ça change rien en fait à la relation que tu vas avoir avec les gens qui sont en face de toi.
T'as pensé à aller bosser en coworking? C'est un truc auquel t'as réfléchi ou t'as pas du tout envie?
J'ai réfléchi, mais je l'ai pas encore fait. Je l'ai pas encore fait. Après, je t'avoue que c'est pas quelque chose qui. Bah, je sais que je dois essayer une fois, mais je me réveille pas le matin en me disant qu'il faut que j'aille absolument dans un
Ouais.
coworking pour essayer de travailler. Mais c'est une expérience à tenter pour voir l'environnement de travail, ce que ça donne et si ça change quelque chose par rapport au fait d'être vraiment en full remote chez lui ou bien en travailler de temps en temps dans un coworking. Mais je
Ouais, ça
sais qu'il y a
permet
d'autres
de.
personnes dans l'équipe qui le font en fait.
Ouais, ça permet de rajouter une petite couche. Tu travailles moins bien. Moi, je l'ai fait pas mal, un peu toutes les modalités. Tu travailles moins bien au fur et à mesure parce que tu rencontres plus de gens. Donc, tu recrées un peu cet environnement bureau où les gens viennent te voir pour aller boire des cafés. Mais du coup, ça rajoute une couche sociale et c'est quand même. Ça peut quand même être intéressant quand tu es isolé tout seul. Ça peut être cool, quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais.
C'est hyper intéressant en fait. Je savais pas que tu avais un boulot aussi distribué avec autant de gens sur tous les fuseaux horaires. C'est vachement cool hein, comme travail. Je pensais pas trop que tu arriverais à avoir ce genre de boulot. Pas toi personnellement, mais qu'il y avait beaucoup de gens. Je pense qu'il y a pas beaucoup de gens en France qui font ce que tu fais en fait. C'est-à-dire,
Oui.
j'ai pas l'impression avec autant de, tu vois, en full remote, global, avec des gens d'un peu partout. C'est
Bah,
relativement cool comme expérience, quoi.
c'est surtout ça en fait, si tu veux. Moi, quand ils m'avaient parlé de la mission au début, en fait, il y avait vraiment cet effet international ou cette partie internationale qui était vraiment internationale, en fait. Car il y a beaucoup des entreprises qui
Ouais.
parlent d'un côté international, sauf que ils travaillent à Lille et ils vont ouvrir un bureau à Roubaix, ils appellent ça international.
Ouais, ou en
Donc,
Belgique, ouais.
ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, là, on est vraiment dans un cadre international, en fait, où t'as des
Ouais.
gens qui sont partout. Et le fait de découvrir d'autres cultures, en fait, aussi, c'est super enrichissant. De travailler avec d'autres personnes qui sont un peu partout dans le monde, c'est super intéressant, en fait, et découvrir comment les autres y travaillent, d'autres façons de travailler, en fait, c'est même sur le côté personnel, c'est aussi enrichissant que sur le côté professionnel. Et c'est ça
Ouais.
qui est super bien dans la mission, c'est que contexte international avec des gens partout dans le monde où on est obligé de parler anglais. Donc, je voyais que les choses positives, en fait, on va dire, malgré le fait que niveau horaire, oui, ça peut être compliqué sur la partie personnelle, mais parfois, je pense qu'il faut faire des sacrifices et dire que ça apporte pas mal de choses. Donc, c'est ça qui est super intéressant.
Ouais, c'est une belle expérience, ouais, carrément. Écoute, tu sais, on arrive à la fin du podcast. Je finis toujours avec les deux mêmes questions. La première, c'est quels sont les conseils que tu donnerais à un junior qui veut basculer sur du full remote, qui cherche peut-être son premier ou son deuxième taf et qui veut faire du full remote?
Je pense qu'il faut qu'il regarde le full remote d'une façon à ne pas se dire, car je pense que ça peut arriver à tout le monde de réfléchir comme ça, à se dire que c'est bon car je vais me réveiller 5 minutes en avance avant de commencer le travail ou bien je vais être chez moi ou ce genre de choses. Il
Ouais.
faut plus le regarder en tant que expérience vraiment à part, enrichissant, responsabilisant en plus, car on peut vite tomber dans le fait que bah, je suis chez moi, parfois je fais des choses qui n'ont rien à voir avec le travail et personne ne va le savoir. Donc on peut vite tomber dans le piège, car ça se finit toujours par se voir. Et se dire que, et partir de cette mentalité-là, à se dire je vais acquérir une nouvelle expérience dans quelque chose que j'ai pas vécu avant et de se lancer. Il faut pas hésiter de se lancer. Au pire, si ça marche et ça plaît à la personne, bah tant mieux. Si ça plaît pas à la personne, bah il pourra retrouver un travail et retourner au bureau. Donc il faut tenter l'expérience. C'est une expérience qui se tente. Il faut tenter. Il faut pas hésiter. Même si ça plaît ou ça plaît pas, au moins la personne elle aura essayé, elle aura su ce qu'elle voulait faire, et elle sera fixée en fait pour après Si elle cherche d'autres travails, elle n'est pas bien. Je ne sais pas si je vais trouver, chercher en télétravail ou pas.
Toi, tu penses que comment, parce que t'as commencé ta carrière il y a pas très très longtemps, tu penses que commencer en télétravail ça aurait été bien pour toi, ou tu penses que commencer un peu à apprendre le métier dans un bureau avec des gens plus vieux, c'est mieux?
Je pense que commencer, oui, en sortant de l'école ou pas, ou en commençant vraiment le travail, je pense que c'est bien d'être en contact avec, oui, avec des personnes qui sont beaucoup plus d'expérience, comme moi j'ai vécu au début, car ça va apporter beaucoup plus d'expérience, ça va aider à acquérir des compétences, surtout si tout le monde n'est pas en télétravail, en fait, si tu veux.
Ouais.
Car ça dépend du contexte, en fait, mais s'il y a des personnes qui sont vraiment sur place, qui ont beaucoup plus d'expérience, je pense qu'au début, même si c'est pas en full remote, ça vaut le coup quand même d'aller quelques jours par semaine sur place pour être en contact direct et agrandir son cercle professionnel, en fait, qui peut être toujours utile pour après. Donc, pour moi, c'est ça. Après, commencer en full remote dans une entreprise qui est déjà en full remote, je pense pas que ça pourra poser problème, car tout le monde sera déjà dans cette mentalité-là. Et ce qu'il va apprendre, il apprendra même en full remote.
Ouais, l'arrivée de nouveaux qui soient juniors, c'est un sujet qui revient quand même assez régulièrement sur ce podcast aussi. Je pense que ça fait peur un peu à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui recrutent, que j'ai interviewé, qui recrutent en full remote, mais qui du coup ont plutôt tendance à prendre des gens avec un peu d'expérience, en se disant que ce sera plus facile de prendre des gens. Il y a Lemlist que j'ai interrogé sur ce podcast, qui eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent les il y a deux fondateurs qui prennent le train, donc ils prennent des gens en France en général, et en fait ils prennent le train, ils vont passer une semaine chez la personne, enfin pas chez la personne, mais ils prennent un hôtel à côté, comme ça pendant une semaine ils bossent ensemble, vraiment côte à côte, pour pouvoir, tu vois, vraiment déblayer tout, mettre en place l'environnement de travail. Et puis une fois que tout ça c'est bien, et que du coup en plus ils se sont rencontrés, donc ils se connaissent, et après ils reprennent le train dans l'autre sens, et après ils sont en full remote complet, ils se voient une fois par an. Mais je trouvais que c'était pas mal comme idée, de et encore plus je pense pour un junior, le prendre par la main un peu au début, parce que sinon ça peut être, quand t'es vraiment tout neuf tout neuf, tu sors de l'école et que tu te retrouves tout seul devant ton ordi le lundi matin en disant bah voilà, c'est ma première journée de boulot, ça peut être assez hardcore quoi.
En fait, si tu veux, nous dans l'équipe, on a pris des personnes qui étaient juniors, et niveau fonctionnement, on a quand même la première semaine, ce qu'on appelle la semaine d'onboarding, en fait, même si elle est faite à distance, mais on est vraiment proche de la personne, à l'accompagner, à lui expliquer les différents points du projet, et aussi en même temps à le pousser à découvrir un peu ce qu'on fait. Mais on est toujours là, en fait, pour l'accompagner, pour l'aider et pour lui expliquer les choses avant qu'il soit vraiment à 100% sur les tâches de travail qui vont lui être associées. Donc on se rassure quand même que la personne soit bien intégrée, qu'elle connaît déjà les différentes personnes de l'équipe avec qui et à qui il doit poser la question s'il a une question concernant un sujet précis. Et ça a marché, en fait. Ça a marché comme ça. On a plusieurs personnes qui ont été juniors dans l'équipe et qui ont été intégrées comme ça, et que ça fonctionne avec eux. Aujourd'hui, ils sont encore dans l'équipe et ils travaillent encore très bien.
Ah, cool de savoir que ça marche, même avec des juniors, parce que je crois que vraiment t'es le premier à qui j'en parle sur ce podcast, et qui me dit qu'onboarder des juniors ça fonctionne en remote. J'avais pas vraiment de doute, mais j'avais jamais eu de retour d'expérience
Bah
complet.
après, ça pour moi, que ce soit junior ou senior, ça dépend de la personne que tu as en face de toi, en fait, s'il a vraiment envie de s'emborder ou pas. Donc ça joue
Ouais, bien
beaucoup, en fait.
sûr.
Si tu as en face de toi une personne qui a envie d'apprendre, t'arriveras à l'aider dès la première semaine. Pour moi, c'est ça qui change un peu tout.
Ouais, bien sûr. Ok. Bah écoute, merci Hussein. C'était hyper intéressant. Ton expérience professionnelle du moment, là, elle est vraiment cool. Où est-ce qu'on peut te contacter?
Si sur Twitter.
Ok. Je mettrai le lien de ton Twitter dans la description.
Ah oui.
Ok.
Je le donnerai, mais ça sera plutôt, ouais, ça sera plutôt sur Twitter. Après, je suis aussi sur LinkedIn. Donc à PVD.
Ok, ça marche. Ça marche. Merci beaucoup, Hussein, pour cet épisode. C'était cool.
Bah, de rien, avec plaisir.
Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.